encore que peut-être ici on est plus épargné que dans d'autres zones urbaines, ou après un trimestre bien chargé, nous sommes aussi peut-être fatigués. Les anges chantaient pourtant la nuit de la naissance de Jésus, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Un verset de l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 14. Et avant de commencer, j'avais envie de vous poser la question, comment allez-vous ? J'espère de tout cœur, et c'est ma prière pour chacun d'entre vous, d'entre nous, que vous êtes dans la paix de Dieu. Jouissant pleinement de sa bienveillance, dans la joie de son salut, et la reconnaissance de la grâce de le connaître personnellement, malgré la fatigue, ou la difficulté, ou la souffrance, la maladie. La naissance du Messie, c'est en effet le salut de Dieu qui vient jusqu'aux êtres humains stressés, énervés, perdus. Laissons-le nous apaiser et nous réjouir de cela. Messie et prophétie. Le Messie, c'est celui que Dieu a choisi. L'Ancien Testament est plein de promesses, plein de prophéties à propos du Messie. Je ne sais pas si ce sont les plus nombreuses, je n'ai pas compté combien il y en a, mais elles sont assurément nombreuses. Des dizaines à travers tout l'Ancien Testament, depuis son premier livre, le livre de la Genèse, jusqu'à son dernier, celui du prophète Malachie. Et vous en connaissez certainement de ces prophéties. Le peuple d'Israël connaissait ces prophéties car il languissait après la venue de ce Messie promis. En tout cas, il languissait après un homme providentiel, un libérateur, un sauveur. Dieu utilise les prophètes pour annoncer au peuple des événements à venir. Dieu utilise les prophètes pour dire au peuple sa volonté. Et des centaines d'années avant la naissance du Christ, Dieu a utilisé des prophéties et des prophètes pour révéler, entre autres choses, le lieu de sa naissance, ses caractéristiques, etc., etc. Une prophétie consiste en des paroles ou des écrits divinement inspirés qu'une personne reçoit par révélation. Croyez-vous, prophétie, ou je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais si on veut utiliser un autre mot qui lui correspond souvent, croyez-vous aux promesses de Dieu ? Parce que, bien plus qu'une vague prédiction sur l'avenir, ce que Dieu dit peut aussi être pris comme une promesse, parce que ce que Dieu dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. J'espère que oui, que vous répondrez oui à ces questions. Beaucoup sont déjà accomplis en tout cas, et en Jésus notamment, même si tout le monde ne l'a pas encore compris ou accepté. Et pour ce qui concerne l'annonce de sa venue, ses caractéristiques ou sa naissance, son nom, ça ne sera peut-être pas nouveau évidemment, mais je vous invite simplement à relire quelques-uns de ces passages que l'on trouve dans la Bible, et je reprends ce que j'ai retenu par ordre chronologique de leur écriture. Le premier, écrit entre, on ne sait pas exactement, entre 1400 et 1700 ans avant Jésus-Christ. On n'est pas absolument sûr de la date d'écriture de ces livres par Moïse, mais ça date d'un bon moment. Dans le livre des Nombres, au chapitre 24, verset 17, Moïse dit « Je vois ce qui arrivera, mais ce n'est pas pour maintenant. » Je l'aperçois, mais ce n'est pas pour tout de suite. Une étoile se lève parmi ceux qui sont nés de Jacob. Un chef se lève au milieu du peuple d'Israël, avec son bâton de roi. Un autre texte écrit par Moïse aussi, Deutéronome, chapitre 18, versets 14 et 15. Ces nations que vous allez déposséder écoutent des faiseurs de présages et des devins. Mais pour vous, l'Éternel, votre Dieu, n'a rien voulu de pareil. Il vous suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Soyons francs, les spécialistes de la Bible associent ces versets à Jésus. Mais c'est vrai, je pense qu'ils peuvent se référer très bien à lui, mais aussi à bien d'autres. Jésus était roi, roi du royaume des cieux. Il était, il est aussi prophète, annonçant encore des choses à venir sur lui et après lui. Et roi et prophète, c'est une très rare combinaison d'une même personne d'ailleurs. Mais il faut bien avouer que, moi je ne les trouve pas si explicites que ça, ces versets. Et on peut les appliquer peut-être séparément à bien d'autres personnages de l'histoire d'Israël. Il y a eu plusieurs rois dignes de cela après Moïse. Il y a eu plusieurs prophètes dignes de cela après Moïse. Mais d'autres versets se font plus explicites. Par exemple, dans le livre des Psaumes, au chapitre 2, au verset 7, un verset plus récent, même si on ne connaît là non plus pas la date exacte, probablement écrit entre 600 et 1000 avant Jésus-Christ. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le Messie est annoncé en tant que fils de Dieu, et ce n'est pas rien comme annonce. Est-ce au sens propre ou au sens figuré ? À titre d'exemple, nous chrétiens sommes aussi filles et fils de Dieu, même si nous ne sommes pas de nature divine. Est-ce qu'on doit le comprendre ainsi pour le Messie ? Les avis peuvent varier, mais ils ne le devraient pas trop longtemps, si on veut bien se donner la peine d'étudier un peu le sujet, car d'autres passages sont encore beaucoup plus explicites. Par exemple, par la bouche du prophète Ésaïe, les versets que l'on connaît sans doute. Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Contrairement aux autres, ce texte, on peut le dater assez précisément vers 760 avant Jésus-Christ. Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Conseiller, Merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Ce verset complète bien, je trouve, celui du psaume. Pour lever le doute sur la nature du Messie, il naîtra enfant, il sera homme, mais il sera Dieu aussi. Il naîtra enfant, il sera homme, mais il sera Dieu aussi. Pas facile de saisir cette vérité complexe, contradictoire à première vue, pour nos petites intelligences. Mais c'est expressément dans le texte qu'il est dit que ce Messie sera Dieu. Dieu fort. El Gibor, en hébreu. Dieu fort ou Dieu puissant, avec le mot El, Dieu. Comme dans d'autres expressions, ça a été évoqué ce matin avec Elohim, un pluriel pour le nom de Dieu, mais il y a aussi El Olam, Dieu éternel, El Shaddai, Dieu tout-puissant, El Haï, Dieu vivant, ou encore Immanuel, Dieu avec nous. Tiens, ça me dit quelque chose ça, Emmanuel, pas seulement pour toi. Et pas seulement parce que notre frère Willy a prêché là-dessus au début du mois. C'est aussi dans Ésaïe, au chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. En hébreu, c'est Immanuel, donc Dieu avec nous. Ce verset est la traduction directe de l'hébreu. Et en hébreu, le terme de jeune fille désigne évidemment une jeune fille non mariée, avec le sous-entendu qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel, donc qu'elle est vierge. Et c'est ainsi ce terme de vierge que l'évangile de Matthieu comporte dans la citation de ce verset d'Ésaïe. Matthieu le met dans Matthieu 1, verset 23. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » N'est-ce pas encore un truc que les chrétiens ont inventé en trafiquant le texte, sa traduction ou son interprétation, pour faire croire une naissance miraculeuse du Christ sous l'action du Saint-Esprit ? Non, non, non. C'est la Bible de la Septante, que l'on appelle ainsi parce que ce serait 70 personnes qui ont travaillé à sa traduction, qui la première comporte ce mot de vierge dans ce verset. Ce ne sont pas les chrétiens qui l'ont écrite, c'est une Bible qui ne comporte que la Bible hébraïque, la partie de l'Ancien Testament, et elle a été écrite à Alexandrie en Égypte vers 270 avant Jésus-Christ. Écrite à l'intention des juifs de la diaspora en grec, parce qu'ils ne comprenaient plus l'hébreu pour la majorité d'entre eux. La Bible annonçait donc bel et bien une naissance miraculeuse du Messie, et les Juifs eux-mêmes le croyaient et le savaient. Le Messie naîtrait d'une vierge, par miracle. Ce n'est pas les chrétiens qui ont inventé ça plus tard. Les opposants à Dieu ne sont nécessairement pas du même avis, et disent souvent que la Bible a été écrite ou réécrite a posteriori. Et c'est évidemment faux. Et comme je l'avais dit aussi par le passé, mais je le rappelle, on peut en particulier le prouver pour le livre d'Ésaïe, car un exemplaire a été retrouvé dans sa quasi-intégralité dans les manuscrits de la Mer Morte, trouvé en 1947, et c'est une copie datée d'environ moins 125 avant Jésus-Christ qui a été retrouvée. Conforme, dans sa quasi-totalité, mot pour mot, aux autres copies et recopies transmises depuis près de 20 siècles. Oui, depuis bien avant la naissance du Messie, le texte biblique a été préservé. Il n'a pas été transformé, il n'a pas été tordu, il n'a pas été perdu. Nous pouvons donc être sûrs de ces versets que nous lisons et de ces prophéties et du fait qu'elles ont été pleinement accomplies. Nous pouvons être dans la paix et dans la joie à ce sujet. Petite parenthèse aussi, on peut noter qu'Emmanuel, évidemment, c'est pas le prénom qui a été donné au Messie. C'est pas une grossière incohérence de la Bible. De même que son prénom n'a pas été non plus conseiller ou prince de paix. Il s'agit plutôt là de la description de son identité, de qui il est, plutôt que de son prénom. Le prénom qui lui a été donné est bien sûr Jésus, Dieu sauve. Mais sans aucun doute, Dieu était bien aux côtés de Jésus, et même plus, il était en Jésus. Dieu était alors parmi les hommes et femmes. Oui, il était bien Emmanuel, Dieu avec nous. Le prophète Ésaïe écrit encore, il précise en Ésaïe 11, versets 1 à 3, passage sur lequel il y avait eu une prédication en juin dernier. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Ces quelques versets annoncent que le Messie sera dans la lignée généalogique du roi David. Isaïe était le père du roi David, je le rappelle. C'est vrai que nous, 2000 ans après, ça ne nous parle pas nécessairement, et encore moins à nos contemporains. Mais pour le peuple d'Israël, c'était quelque chose d'avoir cette prophétie. La famille de David était une famille qui vivait depuis de nombreuses générations avant David, dans un village appelé Bethléem. Tiens, tiens, ça me dit quelque chose aussi, ça. Bethléem, Bethléem. Ah oui, c'est le prophète Michée, un contemporain d'Ésaïe, qui vers 750 avant Jésus-Christ Jésus-Christ prophétise aussi à son sujet. C'est en Michée, chapitre 5, verset 2. « Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Autre prophétie donc, « Le Messie naîtra à Bethléem, et bien qu'il existe de toute éternité, donc du fait qu'il soit de nature divine, parce que qui d'autre que Dieu existe de toute éternité, il s'incarnera pour accomplir le plan divin de salut. » Matthieu reprend aussi ce verset au début de son évangile. Quand les mages vont demander au roi Hérode où il est ce roi qui vient de naître, les mages, enfin les scribes plutôt, les spécialistes de la loi, recherchent et répondent, c'est à Bethléem qu'il est né. Il y a plein d'autres prophéties que l'on pourrait lire sur cette venue de Jésus, sur tous ces détails, des choses importantes, pas nécessairement que des détails, qui ont à l'avance préparé cette naissance, expliqué, prophétisé, donné des détails donc sur ce Noël. Mais bon, comme on mange trop à Noël, je vais arrêter là sur les prophéties et les versets. Je ne voudrais pas vous donner une indigestion avant l'heure, même si moi je les trouve tous très appétissants. Retenez juste que Jésus n'est donc pas venu au hasard. Il n'est pas venu à l'improviste. Il n'est pas venu sans être annoncé. Et que cela est vérifiable et historiquement fondé. Nos contemporains en doutent. C'est incroyable, mais c'est vrai. Tout le monde l'attendait donc avec impatience. Oui, en Israël, on peut le dire, c'était le cas. Tout le monde attendait ce Messie avec impatience, sur la base de toutes ces prophéties. Mais alors, pourquoi n'ont-ils pas reconnu en Jésus ce Messie tant attendu ? Grande question. Pourquoi n'ont-ils pas tous reconnu en Jésus ce Messie tant attendu ? Tout était là, précisément. Je ne sais pas pourquoi. Certainement aussi parce qu'ils avaient... Il avait été prophétiquement annoncé que le Messie serait rejeté. Les attentes, bien qu'impatientes, étaient quand même assez variables selon les uns et les autres. Comme vous le savez, beaucoup espéraient plutôt un Messie guerrier, libérateur de la domination romaine, plutôt que quelqu'un leur demandant de se repentir, d'être humble, de servir et d'accepter la grâce qui change les cœurs et, entre guillemets, ne donne accès qu'à un royaume spirituel. Entre guillemets, bien sûr, parce que nous savons que c'est pourtant là l'essentiel. On peut s'en plaindre, mais trouver Jésus, le reconnaître comme étant le Messie, le Sauveur annoncé, demande un peu de curiosité, un peu de recherche, un peu de prière. Dieu se dévoile et se révèle. C'est une de ses promesses les plus belles et les plus encourageantes, je trouve. Mais pourtant, Dieu ne se laisse trouver que par ceux qui le cherchent. Il ne se dévoile qu'à ceux qui veulent bien l'accepter, avec l'exigence de foi et de lâcher prise qui va avec. Tout le monde n'est pas prêt à faire ce pas, malheureusement. Quand même, mais pourquoi Dieu a-t-il brouillé les choses ? Pourquoi ne sont-elles pas plus évidentes ? Pour trouver Dieu, il faut le chercher. Et chercher implique un peu d'effort. La découverte n'en est que plus belle, même si elle n'induit pas plus de mérite. Viens et vois. Viens et vois. C'est Philippe, un des disciples que Jésus choisit plus tard comme un des 12 apôtres, qui donna cette invitation à son ami Nathanaël. C'est rapporté dans un évangile, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans sa loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui répondit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Moi, à mon avis, Jésus aurait mieux fait de s'appeler Jésus de Bethléem. Ça aurait permis d'éviter bien des histoires. Mais non. Il a été appelé Jésus de Nazareth parce que c'est dans cette ville qu'il a grandi. Marie et Joseph vivaient à Nazareth avant sa naissance. Ils étaient peut-être nés eux-mêmes. Mais sont retournés y vivre après la naissance de Jésus à Bethléem, où ils étaient seulement allés pour le recensement, qui les obligeait à revenir dans la ville d'origine de leur famille, et après un petit temps d'exil en Égypte, pour échapper au roi Hérode qui voulait tuer tous les bébés, dont Jésus, le roi annoncé que les mages étaient venus voir. C'est pour ça que Jésus était connu comme étant Jésus de Nazareth. Mais pourquoi Dieu a-t-il brouillé les choses comme ça ? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? C'est la première réaction de Nathanaël. Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David ? Et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ? Autre question, autre réaction dans la foule au cours du ministère de Jésus, rapportée dans l'évangile de Jean, au chapitre 7. Un questionnement qui entraîna la division parmi la foule, précise le texte. C'est en Jean 7, 40, 42. Consulte les Écritures et tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée, réagissaient encore les chefs religieux. Toujours en Jean, chapitre 7, verset 52. Et dans la même veine, il y a tous ceux qui, à Nazareth, connaissaient Jésus et n'arrivent alors pas à comprendre qui il est vraiment. N'est-ce pas le charpentier ? Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude, de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ? On trouve ça en Marc, chapitre 6, verset 3. Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Tout le monde connaît les prophéties en Israël concernant le Messie. On l'a dit, on les a lues, et tout ceci le confirme. Et ça a vraiment été une cause d'achoppement et d'égarement pour beaucoup de gens, une cause d'incompréhension, une cause de rejet. Clairement, ça a desservi son ministère, ce truc. Et la reconnaissance du fait qu'il soit le Messie. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ? Franchement, il aurait pu faire autrement. Jésus de Bethléem, ça sonnait bien aussi, moi, je trouve. Ah, des fois, Dieu ne sait pas vraiment bien s'y prendre. Bon, je provoque évidemment volontairement. Mais c'est vrai que des fois, on s'interroge. Ça aurait été si simple. Jésus de Bethléem, facile. Descendant de David. Hop, c'est lui le Messie. Viens et vois. Beaucoup n'ont pas jugé nécessaire de le faire, de faire cet effort, de venir, de voir, de chercher, de creuser. Et ils sont restés sur le côté superficiel de ce qu'ils avaient cru voir et comprendre. Si vous lisez la suite de l'histoire, Nathanaël n'a pas seulement dit « Oh non, 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 je viens pas moi, pas la peine, hein. Ça ne peut pas être lui de toute façon ». Il ne s'est pas basé sur sa seule connaissance, qui pour le coup était correcte concernant les prophéties, mais incomplète concernant les origines de Jésus. Il a voulu en savoir plus, il a suivi Philippe, il a rencontré Jésus et il a vu. Il a été convaincu et il a alors affirmé rapidement, mais avec une conviction fondée cette fois-ci, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu ». Tu es le roi d'Israël. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 49. Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Waouh. belle compréhension de qui était Jésus. Belle confession de foi de sa part. Viens et vois. Celui à qui les chefs religieux ont lancé ce « Consulte les Écritures, tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée » que j'ai mentionné il y a quelques minutes, c'était Nicodème, docteur de la loi, et ses collègues du Sanhédrin, parmi les responsables du peuple juif, eux n'ont pas fait cet effort. Nicodème, on en a déjà entendu parler, lui, il ne s'est pas seulement basé sur sa seule connaissance, qui pourtant était correcte concernant les prophéties, mais incomplète concernant les origines de Jésus. Il a voulu en savoir plus, il a rencontré Jésus et il a vu. Il a été convaincu et il est alors devenu un disciple de Jésus. Certes en secret au début, mais un disciple, c'est sûr, qui s'est affirmé par la suite. Viens et vois. Peut-être pensons-nous tout connaître sur Noël. Peut-être pensons-nous tout connaître de Jésus ou tout connaître de Dieu. Peut-être pensons-nous connaître qu'il n'existe pas. Peut-être que notre connaissance n'est que superficielle ou partielle, voire partiale. Ne nous arrêtons pas là. Ne nous satisfaisons pas d'un petit peu ou de trop peu. Il y a toujours plus à découvrir. Et des merveilles en plus. Toujours plus à découvrir. Et des merveilles en plus. Même pour les chrétiens déjà convaincus. Creusons, vérifions, cherchons. Creusons, vérifions, cherchons. En particulier avant de rejeter à la va-vite. Et alors nous verrons. Alors nous saurons. Un petit effort qui sera récompensé. Car oui, assurément, Jésus est le Christ. Le Christ, c'est le mot grec, je le rappelle, équivalent au mot Messie, qui est le mot hébreu, les deux voulant dire celui choisi par Dieu. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons tout à gagner, à grandir dans la connaissance de qui il est, à grandir dans la communion avec lui. J'ai encore tant à découvrir. Et je m'en réjouis par avance. Je m'en réjouis énormément. Et je me réjouis de pouvoir le partager autour de moi, comme l'a fait Philippe vis-à-vis de son ami Nathanaël. Disons aussi à nos connaissances, viens et vois. Invitons-les à ne pas s'arrêter à ce qu'ils croient connaître, au superficiel qu'ils ont déjà entendu ici ou là. Viens et vois. Toutes les prophéties concernant le Messie sont accomplies, bel et bien accomplies. Merci Seigneur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Oui, je veux vraiment m'en réjouir de cette période de Noël en particulier, tout en languissant après le retour du Seigneur. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, joyeux Noël à vous et que chacun d'entre vous puissiez vous approcher de Jésus davantage, venir et voir et le glorifier et le louer. Amen. Et je vous invite à prier. Seigneur, selon nos circonstances, il est parfois difficile de nous réjouir, parfois difficile d'être en paix, et c'est vrai qu'on peut être soi-même éprouvé ou des proches peuvent l'être, et ça nous pèse. Mais en cette période de Noël, nous voulons pas simplement mettre ça de côté, nous voulons te déposer tout cela et te demander de nous aider à nous réjouir et d'être dans la paix. De ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous savons qu'après-demain sera une présence éternelle avec toi. Et je te loue et te remercie, Seigneur, pour cela, pour cette espérance que nous avons. Quelle paix, effectivement, de se savoir pardonner, Quelle joie de savoir que nous passerons l'éternité avec toi et que cette éternité a déjà commencé dès aujourd'hui pour nous. Merci pour Noël. Merci parce que tu nous as aidés à comprendre ces prophéties, à les voir comme étant effectivement réalisées en Jésus. Seigneur, je veux découvrir encore plus de toi. Donne-moi toujours soif, donne-moi toujours faim de découvrir d'autres merveilles t'en concernant, de venir davantage près de toi, dans ta proximité, dans ta communion, dans la relation avec toi que tu veux avoir avec moi. Quel privilège de te connaître. Et que nous puissions aussi dire à nos proches, à nos amis, viens et vois. Et que tu changes leur cœur aussi, Seigneur, pour qu'ils te découvrent comme tel. À toi toute la gloire, et oui, je veux chanter aussi comme les anges le faisaient. Gloire à Dieu. Merci Père. Merci Papa. Amen.